Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Mais c'est quoi ce truc?
Ce truc? C'est plus noir, hein? Plus intense, plus...
Oh. Mais attends, mais moi aussi je suis intense.
Hein? Du coup,
vraiment plus intense.
Bienvenue sur les chemins du vendredi, où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et actualité sous toutes ses formes. Problématiques du jour, personnalité et essais en tout genre, une autre manière de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Et l'équipe des Nouveaux Chemins, c'est aussi la philosophie en train de se faire. Marianne Chassor, Colomba Grossi, David Pargamin, Antoine Ravon, Lucie Tardy et bien sûr Adèle Van Rett, avec Peyré Legras à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes et à la prise de son aujourd'hui d'Ophar Guéride. Des intensités nous sont promises. Nous naissons et nous grandissons exposés à la recherche de sensations fortes qui justifieraient notre vie. Procurées par la performance sportive, les drogues, l'alcool, les jeux de hasard, la séduction, l'amour, l'orgasme, la joie ou la douleur physique, la contemplation ou la création d'œuvres d'art, la recherche scientifique, la foi exaltée ou l'engagement enragé, ces excitations soudaines nous réveillent de la monotonie, de l'automatisme et du bégaiement du même, de la platitude existentielle. Car une sorte de dévitalisation menace sans cesse l'homme confortablement installé. Jadis, cet engourdissement était la hantise du souverain oisif et comblé, des rois fainéants recherchant désespérément le divertissement. De Néron, de Caligula ou des conquérants endormis dans ce qu'on appelait les délices de Capoue. Le paradoxe qui menaçait l'homme supérieur, c'était qu'en triomphant, en accomplissant tous ses désirs et en atteignant tous ses buts, il sentait se relâcher en lui la tension existentielle, la vigueur de ses nerfs, et il perdait cette sensation indéfinissable qui permet à un être vivant d'évaluer favorablement l'intensité de sa propre existence. Mais tragique de l'intensité et tragique de notre époque, à chercher à penser l'intensité, à la susciter, à l'entretenir, à chercher à la rechercher, elle disparaît. Faut-il pour autant renoncer à en tracer les contours, à en saisir l'idée ou l'image? Eh bien loin de là, pour comprendre comment l'intensité a acquis une dimension morale, comment elle est devenue un impératif, une norme, le philosophe Tristan Garcia vient de faire paraître La vie intense, une obsession moderne, aux éditions Autrement. Tristan Garcia, que j'ai le plaisir d'accueillir pour en parler aujourd'hui. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Monsieur, dit le capitaine Nemo, me montrant les instruments suspendus aux parois de sa chambre, voici les appareils exigés par la navigation du Nautilus. Ici, comme dans le salon, je les ai toujours sous les yeux et ils m'indiquent ma situation et ma direction exacte au milieu de l'océan. Les uns vous sont connus, tels que le thermomètre qui donne la température intérieure du Nautilus, le baromètre qui pèse le poids de l'air et prédit les changements de temps, l'hygromètre qui marque le degré de sécheresse de l'atmosphère, le storm glass dont le mélange en se décomposant annonce l'arrivée des tempêtes, la boussole qui dirige ma route, le sextant qui, par la hauteur du soleil, m'apprend ma latitude, les chronomètres qui me permettent de calculer ma longitude, et enfin des lunettes de jour et de nuit qui me servent à scruter tous les points de l'horizon quand le Nautilus est remonté à la surface des flots. Ce sont les instruments habituels aux navigateurs, répondis-je, et j'en connais l'usage. Mais en voici d'autres qui répondent sans doute aux exigences particulières du Nautilus. Que sont ces autres instruments dont je ne devine pas l'emploi? Ici, monsieur le professeur, je dois vous donner quelques explications, dit le capitaine Nemo. Veuillez donc m'écouter. Il garda le silence pendant quelques instants, puis il dit « Il est un agent puissant, obéissant, rapide, facile, qui se plie à tous les usages et qui règne en maître à mon bord. Tout se fait par lui. Il m'éclaire, il m'échauffe, il est l'âme de mes appareils mécaniques. Cet agent, c'est l'électricité. L'électricité ?» m'écriai-je assez surpris.
Tristan Garcia, on vient d'entendre un extrait du célèbre roman de Jules Verne qui date de 1870, 20 000 lieues sous les mers, dans lequel le capitaine Nemo fait découvrir au professeur Pierre Aronnax l'ensemble de ses appareils. Et puis juste après, en ce moment même, on est en train d'entendre un solo de guitare électrique de Neil Young. Et entre 20 000 lieues sous les mers et ce solo de guitare, le point commun, c'est l'électricité. C'est l'âme de ses appareils, dit le capitaine Nemo à Pierre Aronnax. C'est ce qui donne toute l'intensité à ce solo de guitare. En quoi l'électricité est peut-être la meilleure image pour comprendre ce qu'est l'intensité ?
Oui, en effet, je suis assez attaché à l'idée suivant laquelle l'électricité aurait d'abord été, alors un peu avant Jules Verne, dès le XVIIIe siècle, une sorte de promesse magique de la raison. Il y a un moment où, et d'ailleurs c'est ce que Jules Verne arrive à retrouver dans sa description, où l'électricité n'a pas seulement été un objet d'étude scientifique, mais a été un objet de fascination pour le public savant européen. Et je crois qu'elle est venue, l'électricité, au XVIIIe siècle, dans un certain nombre d'expériences qui étaient bricolées par à la fois des savants et presque des bonimenteurs de foire ou des individus qui étaient à mi-chemin entre la science et la magie. L'électricité était d'abord une sorte de promesse, à la fois de promesse bien connue qui va lancer la modernité, qui était une promesse technique d'émancipation. Ça allait permettre de disposer désormais d'une énergie qui allait remplacer petit à petit l'énergie musculaire. Mais il y a quelque chose qui a moins été pensé, qui est ce que l'électricité a fait à la pensée. Et ce que l'électricité a fait à la pensée, probablement, c'est qu'elle l'a fascinée en étant d'abord une sorte de promesse de réconciliation de la nature, du corps de l'homme, de la sensibilité de l'homme et de la pensée. Au fond, ce qui est découvert au XVIIIe siècle, c'est pas l'électricité qui est nommée dès 1600, et puis on connaît depuis longtemps le frottement de l'ambre, ou dans l'orage par exemple, les phénomènes électriques. Ce qui est découvert au XVIIIe siècle, et qui fascine l'Europe, c'est l'idée que nous-mêmes, nous sommes électriques. C'est-à-dire, c'est la découverte que dans la physiologie, le message nerveux est électrique. C'est le lien entre l'électricité et la nervosité. Et d'une manière ou d'une autre, cette fascination pour l'électricité va venir relever une partie de l'Europe savante qui est presque déprimée depuis un siècle par, disons, la mécanique ou la science de l'âge classique qui promet un monde, une matière, un espace essentiellement extensif, découpable partie par partie, rationalisable, quantifiable, qui promet une science du mouvement, une science de la force, mais qui a au fond vidé le monde précisément de son intensité. Un des premiers gestes de Newton, de la page 2 des Principia, c'est de rejeter du côté, pas tout à fait de l'irrationnel, mais en tout cas d'un objet qui ne sera pas l'objet de la mécanique générale, les variations intensives. Et l'électricité, c'est la découverte de ce fluide subtil au XVIIIe siècle, qui est aux limites entre le rationnel et l'irrationnel, et qui fascine parce qu'il montre que la nature est elle-même gorgée de quelque chose, d'une force à demi-occulte, la force électrique, et que nous-mêmes notre corps égorgé de cette électricité que Nemo présente dans ses instruments. Donc l'électricité va être à la fois dans les objets techniques, mais elle nous réconcilie avec la nature et avec les objets techniques. Nous sommes faits aussi du même fluide. Et ce fluide est l'agent, je crois que Nemo utilise ce mot, hein, d'agent universel, ce qui est un lieu commun du XVIIIe siècle. Hein. C'est quelque chose que Dorat utilise, que Diderot utilise, un agent universel de la nature.
Donc cette unification de l'homme avec la nature et la technique par l'électricité, finalement, c'est d'être animé, c'est-à-dire de remplacer le principe d'animation qui serait un principe purement vital. Quand Nemo dit c'est l'âme, on connaît l'âme chez Aristote, c'est le principe vital de l'homme. Et comment en fait cette dimension en fait de remplacer quelque chose de finalement un fluide qui serait quand même, on va dire, du côté de la technique, c'est-à-dire que on a tendance à associer l'électricité à ça, par exemple. À la guitare électrique qui nous anime, qui nous intensifie aussi, est associée à une sorte de musique, plus maintenant véritablement, mais ça a été au début associé à quelque chose de technique, de barbare, de d'anti-naturel, qui n'est pas classique, qui n'est pas joli. Donc il y a quand même quelque chose de complètement de résistant en fait dans l'électricité, dans l'intensité, qui maintenant est devenu quelque chose de complètement conformiste. C'est ça aussi le trajet de l'intensité.
Alors oui, il y a deux choses. D'abord, effectivement, en un sens, l'électricité va servir de substitut au moment de la laïcisation à l'âme. L'âme promise par la science moderne, c'est l'électricité. C'est-à-dire ce qui anime le corps, c'est un fluide électrique. Et ça va être la nervosité, ou ça va être en tout cas quelque chose qui court parmi les corps, qui peut être mesuré, donc c'est une âme que la science peut maîtriser, c'est une âme que la science peut donner aux objets, puisque la science peut mettre l'électricité dans les objets techniques. Cette âme-là, cette espèce d'âme moderne, d'âme technique qu'est l'électricité, elle va fasciner longtemps, elle va fasciner un siècle et demi ou deux siècles, et ensuite, en effet, il me semble que elle va s'effacer un peu mystérieusement de la scène du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on va continuer à utiliser de plus en plus l'électricité comme un moyen, mais on va de moins en moins chanter l'électricité. L'électricité, par exemple, est un objet de poésie au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, de poésie naïve, souvent. Même Chénier, par exemple, fait des poèmes. C'est le thème de la fée électricité aussi, jusqu'à Dufy. Peut-être les derniers qui vont chanter l'électricité, ce sont les avant-gardes du XXe siècle. Les futuristes chantent encore l'électricité. Moi, d'ailleurs, il y a ce poème avant de Whitman, hein, qui est je chante le corps électrique. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment l'électricité a été une sorte de moteur, d'image motrice, de grande métaphore pour l'enthousiasme moderne à partir du XVIIIe siècle, puis comment on s'y est habitué. Il y a eu une forme de routine, elle s'est effacée, on l'a utilisée, elle est utilisée comme un moyen technique, mais elle n'est plus un objet de fascination. Alors qu'on sait qu'au XIXe siècle, par exemple, il y a énormément de textes sur l'émerveillement devant les villes qui s'illuminent, les villes qui sont électrifiées pour la première fois.
Elle n'a plus ce caractère nouveau.
Voilà, elle perd ce caractère nouveau, et puis elle va être éclipsée aussi au XXe siècle par l'apparition de l'électronique. Et l'électronique, au fond, ça n'est rien d'autre que l'électricité à basse intensité. Puisque dans l'électronique, le but est d'utiliser le courant électrique, mais comme un moyen pour transmettre de l'information. Et la fascination moderne va se déplacer de l'électricité comme fin, hein, le filament de l'ampoule, à l'électricité comme simple moyen pour transmettre à basse intensité des bits d'information.
Ce qui explique cette banalisation de l'électricité explique, ou en tout cas nous amène vers ce paradoxe de l'intensité qui est l'objet de votre essai, qui est qu'à la fois l'intensité est ce qu'on recherche, mais ce que tout le monde recherche, c'est une obsession moderne, dites-vous. Du coup, c'est une obsession qui est banalisée, c'est une norme, et là est tout le paradoxe de l'intensité. C'est à la fois quelque chose d'exceptionnel que l'on ressent de temps en temps, que l'on peut évaluer si à la condition que l'on ne la ressente pas tout le temps, et en même temps, la rechercher en permanence la détruit de fait.
Voilà, il me semble que l'électricité, alors, n'a pas servi d'idée, mais simplement d'image pour ce concept qui apparaît vers le XVIIIe siècle, qui est le concept d'intensité, qui à mon sens va servir de boussole morale ou éthique, ça se discute, pour l'homme moderne qui hérite d'une société moderne, en grande partie laïcisée, et en tout cas d'une société où la société européenne, puis plus largement la société occidentale, va considérer qu'elle n'est plus en mesure de promettre aux individus autre chose. Elle n'est plus en mesure de leur promettre une vie après la mort, le salut, la grâce, elle n'est plus en mesure de leur promettre quelque chose d'autre que ce que les individus ont déjà. Et qu'est-ce qu'ils ont déjà? Ils ont une vie. Leur vie est nerveuse, leur vie est électrique. Nous avons des perceptions, nous avons des sensations, nous avons du désir. Et il y a cette espèce de changement par lequel, petit à petit, au XVIIIe siècle, la société va se mettre à promettre aux individus non plus autre chose, mais plus de la même chose. Donc, elle va leur promettre une intensification de leur fonction vitale, une intensification de leur enthousiasme, une intensification de leur désir, une intensification de leur perception, de leurs sensations. Et là, on revient au premier extrait qu'on a entendu, qui est, c'est mon avis, pour cette raison que, par exemple, le maître mot du langage publicitaire, mais le maître mot plus généralement, par exemple, de la civilisation des loisirs, à partir de la fin du 19e siècle, dès le Nickelodeon, les parcs d'attractions, Coney Island, etc., ça va être l'intensité. Qu'est-ce qu'on peut promettre aux individus de mieux pour leur vie? Une expérience intense, quelque chose d'intense. On leur promet un goût intense, on leur promet
d'être intense,
de l'adrénaline, d'être intense. On leur promet aussi un amour intense, une sexualité intense, etc. Et l'intensité vient assez nettement remplacer comme valeur sociale cardinale la transcendance. Ce n'est plus de la transcendance qui est promise, autre chose. Autre chose que la vie telle qu'elle est, mais une intensification de la vie telle qu'elle est. Évidemment, ça, c'est quand même une idée abstraite, et à mon sens, cette idée va s'adosser à l'image de l'électricité, de la fascination un peu naïve et enfantine pour l'électricité que les premiers modernes du XVIIIe siècle vont avoir. Il y a une sorte de conjonction difficile à faire entre l'idée qu'on promet aux individus une vie plus intense, parce qu'on ne peut pas leur promettre autre chose, on leur promet simplement l'intensification de ce qui est déjà là, de ce qu'elles ont déjà. Et comme image de ça, il y a l'électrification. L'électrification des objets techniques, mais aussi l'électrification du corps. Et donc, c'est, à mon sens, cette alliance qui explique la naissance de l'enthousiasme moderne, de l'enthousiasme individuel ou de l'enthousiasme des foules. Et c'est cet enthousiasme, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, qui, à mon avis, en même temps que notre fascination pour l'électricité s'est un petit peu érodée, cet enthousiasme aussi, à un moment, n'a plus fonctionné.
Aristote s'oppose à son maître Platon. La physique de Platon était absorbée par des recherches géométriques générales. Elle s'éloignait des données de la perception pour se diriger vers une intuition des essences mathématiques. La physique d'Aristote, comme l'indique fort bien Pierre Duhaime, est à la fois un retour aux phénomènes sensibles et un retour par-delà les formes géométriques, à la matière. L'opposition de la matière et de la forme n'est pas une dialectique statique. En fait, la matière, pour Aristote, s'oppose à la forme comme la puissance s'oppose à l'acte. Dès lors, la matière, à l'encontre des formes géométriques, est le principe des changements en profondeur, de changements qui vont de la génération à la corruption et qui expliquent ainsi tous les phénomènes.
Comme la sensation n'est pas du tout en soi une représentation objective, et comme on ne trouve en elle ni l'intuition de l'espace ni celle du temps, elle n'aura pas sans doute de grandeur extensive, mais elle aura pourtant une grandeur, qui même lui viendra de l'appréhension d'elle-même, où la conscience empirique peut croître dans un certain temps depuis rien égale zéro jusqu'à sa grandeur donnée. Elle aura donc une grandeur intensive, et en tant que correspondant à cette grandeur, tous les objets de la perception, dans la mesure où cette perception renferme de la sensation, doivent être affectés de la grandeur intensive, c'est-à-dire avoir un degré d'influence sur les sens. Alors Tristan Garcia, dans votre livre « La vie intense, une obsession moderne », vous procédez, vous suivez le parcours de cette idée d'intensité. Et on a entendu une archive de Bachelard qui date de 1954. Bachelard qui explique chez Aristote comment il peut penser qu'une chose reste à la fois la même tout en changeant. C'est tout le principe, tout le rapport entre la puissance et l'acte, ce qui permet de penser l'intensité, c'est-à-dire ce changement à la fois en gardant le même mais en étant plus fort ou moins fort. Et puis on entend, et puis j'ai lu juste après un extrait de la Critique de la raison pure de Kant, dans lequel il explique cette idée de grandeur intensive, c'est-à-dire l'idée que on peut mesurer quelque chose non pas de manière par l'extension en le dépliant de manière objective, mais on peut aussi en fait voir comment cette intention se mesure par degré, cette intensité se mesure par degré.
Oui, en effet, le concept d'intensité au sens strict ne se cristallise dans la philosophie européenne vraiment qu'au XVIIIe siècle, mais le mot existe depuis longtemps. C'est un vieux mot, et c'est surtout un mot dans la tradition aristotélicienne, c'est la question de l'intentio. Il y a tout un débat au Moyen-Âge, par exemple, sur ce qu'on appelle la latitude des formes. Ce débat permet de tracer une petite histoire secrète, un peu technique, qui est au fond l'histoire du type d'outil que la pensée, que la métaphysique s'est donnée pour comparer une chose, non pas à une autre chose, mais pour la comparer à elle-même. Très grossièrement, on pourrait dire que le concept d'extension sert d'une façon générale à comparer une chose à une autre chose. C'est-à-dire, il y a extension dans l'espace, par exemple, à partir du moment où il y a un découpage possible partie par partie, et où il y a un rapport extérieur entre des parties, notamment des parties spatiales. De telle sorte que une grandeur extensive, c'est au fond une grandeur, dans la tradition philosophique, qui permet une comparaison entre deux objets, entre deux entités qui sont extérieures l'une à l'autre. Un homme est plus petit qu'un autre. Une partie de l'espace est plus petite ou plus grande qu'une autre. Mais même aussi une force, éventuellement, est plus faible qu'une autre force. L'intensité, ça va être la quête, au fond, d'un concept pour permettre une mesure rationnelle d'une chose comparée à elle-même. C'est l'exemple, par exemple, dans la tradition aristotélicienne, il y a souvent l'exemple du mur plus ou moins blanc. Donc l'exemple d'une variation de luminosité. Si je vois un mur et que la luminosité change, la blancheur du mur va évoluer. Le mur va s'assombrir, par exemple, progressivement. Le blanc du mur s'assombrit. Évidemment, la question qui se pose à chaque fois, c'est de quel outil est-ce que je dispose pour comparer la blancheur du mur, non pas à la blancheur d'autre chose, mais à elle-même. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais à travers le temps, évidemment pour mesurer le devenir, et pour mesurer un devenir qui affecte la qualité des choses, qui fait que certaines qualités, des couleurs, des sons, vont et viennent. Elles augmentent et elles diminuent. C'est l'intentio et la remissio dans ce langage classique. Et il me semble qu'on peut tracer, très, très grossièrement en Europe, une sorte de petite histoire des outils dont la pensée s'est dotée pour avoir une mesure, pour avoir un instrument de la façon dont la qualité d'une chose pouvait être comparée à elle-même, dont elle pouvait augmenter ou diminuer, s'affaiblir ou au contraire se renforcer. Et il est évident que l'outil fondamental en Occident pendant très longtemps, qui est hérité d'Aristote et qui domine l'Occident chrétien pendant longtemps, c'est le couple puissance-acte. C'est-à-dire la capacité d'organiser le monde, d'organiser un cosmos de telle manière que je peux toujours comparer une chose en acte à sa puissance, à quelque chose qu'elle contient en elle, qui est au fond je peux toujours mesurer, avoir une sorte d'échelle pour chaque chose, pour chaque être du monde, où je peux arriver à situer à peu près le degré de réalisation en acte de cette chose. Et il est évident aussi que ce qui est perdu avec l'émergence de la science à l'âge classique, c'est la puissance. C'est un récit qui est bien connu de l'Occident. C'est-à-dire que le monde occidental s'est vidé de puissance, a été remplacé en partie par la force dans la mécanique classique. Et une hypothèse possible, c'est que il manquait quelque chose à la force. La force, au fond, c'est une sorte de puissance universelle, impersonnelle, qui s'exerce sur une matière ou sur un espace objectif, déqualifié. Et à partir de ce moment-là, il a manqué, je crois, un instrument à la conscience ou à l'esprit occidental pour pouvoir continuer de mesurer une chose par rapport à elle-même. En fait, ce qu'il devient difficile à faire pour le rationalisme classique, de l'âge classique, c'est de parvenir à savoir si une chose est plus ou moins fortement ce qu'elle est. Puisque chaque partie de l'espace est ce qu'il est. Le rationaliste dit, ben voilà, une partie de l'espace est ce qu'elle est, je peux éventuellement mesurer sa longueur, je peux mesurer sa vitesse, etc. Mais ça n'a plus aucun sens de savoir si une chose est fortement ou faiblement ce qu'elle est. C'est irrationnel. Et donc, dans ce monde-là, il manque un outil à la subjectivité, notamment pour savoir si elle-même est faiblement ou fortement ce qu'elle est. C'est-à-dire, comment puis-je évaluer mon degré d'existence, mon degré d'engagement dans ma vie, si je n'ai plus d'outils pour savoir si je suis fortement ou faiblement ce que je suis. Et c'est là où le concept d'intensité, à mon sens, va intervenir. Et la grandeur intensive, par exemple, dans l'extrait que vous avez lu de Kant, concerne le sens interne. Et donc, l'intensité va être, je crois, une sorte de fétiche de la résistance de l'intériorité, de la subjectivité, à un monde extensif, un monde mesurable, quantifiable, hein, un espace et une matière qui est livré par la science de l'âge classique, qui est un monde qui est évidemment offert à la technique, mais qui n'est pas vivable pour la subjectivité. Pourquoi ? Parce qu'aucune subjectivité, du coup, ne peut se sentir plus ou moins fortement être dans ce monde.
Alors, comment, du coup, parler encore d'intensité ? C'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire, finalement, si l'intensité est un défi à la raison, à la rationalité scientifique, comment prétendre encore en parler ? Comment prétendre encore la rechercher ? Et cette idée, par exemple, si on prend, vous servez de cet exemple qui est le avoir un mal de tête. C'est-à-dire qu'on a mal à la tête le matin et on a mal à la tête le soir. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui nous fait dire que on a plus ou moins mal à la tête, personne n'est à ma place. C'est aussi le cas d'ailleurs du mur plus ou moins blanc, parce que ça met en jeu la perception ou du sens interne dont parle Kant. C'est-à-dire que l'intensité met en jeu aussi la subjectivité, met en jeu l'individu et ne permet pas ce partage-là. Alors comment chercher cette intensité si nous sommes seuls juges et que nous-mêmes ne disposons pas de moyens pour la mesurer ?
Oui, l'intensité va servir, je crois, comme mot et comme concept dans la modernité, d'une sorte de fétiche de l'intériorité et de la subjectivité. C'est-à-dire ce qui n'appartient qu'à moi. Dans la mesure où la science et où l'objectivité, d'une façon générale, vont s'emparer de tous les phénomènes, vont être capables de les quantifier, de les mesurer, il y a quelque chose, il y a une mesure qui doit n'appartenir qu'à moi, c'est la mesure de mon sentiment d'être plus ou moins fortement engagé dans ce que je sens, dans mes expériences. Et l'intensité, du coup, va généralement être ce fétiche qui va produire un langage paradoxal. Puisque l'intensité, ça va être la mesure de ce qui n'est pas mesurable. Ça va être la quantité de ce qui n'est pas quantifiable. Ça va être l'évaluation de ce qui n'a pas de valeur d'échange, par exemple, etc. Donc l'intensité va toujours produire un langage paradoxal. C'est le cas chez Nietzsche, c'est le cas chez Bergson. C'est à la fois une grandeur et c'est en même temps ce qui résiste à la grandeur. C'est à la fois une quantité et c'est ce qui résiste à la quantité. Donc, je crois que c'est en effet une sorte de fétiche qui permet de défendre, comme une citadelle assiégée, le sujet moderne, la subjectivité. Pour prendre un exemple très contemporain, par exemple, je pense que tout ce qu'on appelle l'économie cognitive aujourd'hui et tous les datas qui sont promis par les techniques qui, par exemple, avec des bracelets électroniques, etc., vont de plus en plus mesurer. Mesurer quoi ? Vont mesurer des intensités physiologiques des individus. On va mesurer notre pouls,
la perte de calories par pas effectué.
Voilà. Vous voyez, toute cette espèce de quantification et de rationalisation de toutes les intensités physiologiques, de toutes les intensités du corps. On voit bien ici qu'il y a une dépossession. L'individu, le sujet, est dépossédé de la connaissance et de l'évaluation de ses intensités physiologiques. C'est-à-dire, qui va me dire exactement si je suis plus ou moins en forme ? Qui va me dire exactement qui va évaluer justement toutes mes différences, toutes mes variations, toutes mes oscillations physiologiques ? Ben, un certain nombre de systèmes objectifs qui vont transformer ça en données, et ces données vont être traitées, et évidemment ces données en plus vont être rationalisées économiquement, puisque elles vont permettre ensuite de me proposer un certain nombre de produits suivant l'état de ma physiologie. Et on voit bien ici comment il y a une capture de l'extérieur et par la technique des intensités du corps qui viennent déposséder le sujet de l'évaluation en fait de ses intensités.
Mais qui le ramène sans cesse vers lui quand même. C'est-à-dire qu'en même temps, on est tellement ramené vers nous à cause de l'intensité. C'est-à-dire qu'en gros, on se demande tellement si on est en train de vivre une expérience intense, il faut que la soirée de vendredi soit plus intense que celle d'avant, parce qu'elle était déjà géniale. Il faut toujours avoir plus, il faut toujours avoir... Alors c'est même pas en termes de consommation, c'est ne serait-ce qu'en termes de sensation, il faut que ce paysage qu'on voit soit plus beau que celui que j'ai vu 2 ans avant. Et on voit bien ici que le fait d'être sans cesse tourné vers soi nous oblige, nous perd en fait, on se perd nous-mêmes dans l'intériorité et on a besoin de faire appel à des instruments extérieurs pour reprendre en fait une sorte de repère. C'est aussi ça le paradoxe entre cette intériorité et cette extériorité, c'est à la fois d'être tout le temps centré vers soi et en même temps de se perdre dans les profondeurs de soi.
Oui, parce que comme je le disais, comme je crois que c'est un fétiche et c'est une sorte de réaction à la quantification, à la rationalisation de l'extériorité, l'intensité est toujours une sorte de valeur refuge du discours lorsqu'il s'agit de se réapproprier soi-même, de se réapproprier le sentiment de soi, de s'assurer que ce que je vis ou ma vie est bien vécu par moi-même, pas par un autre, qu'elle ne peut pas être tout à fait réduite à des nombres qui peuvent être ensuite rationalisés, extériorisés, par lesquels on pourrait produire un modèle qui me déposséderait de ma subjectivité. Donc si l'intensité a été le fétiche de la subjectivité, le problème de ce fétiche, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que c'est un fétiche extrêmement fragile. Il est fragile parce que le paradoxe de l'intensité, et c'est lié à ce que vous dites, et c'est lié à la contradiction qui fonde ce concept, c'est que, au fond, l'intensité essaye de désigner ce qui échappe à l'identité, ce qui échappe à l'identité numérique, ce qui échappe à la quantité, et en un sens même ce qui échappe à l'être. Et évidemment, dès que l'intensité est identifiée, c'est-à-dire dès qu'elle devient une norme ou un idéal, elle est perdue. Elle est perdue parce qu'elle est livrée à son contraire. Elle est identifiée, elle est quantifiée, elle est rationalisée. Et donc, toute une part de l'esprit moderne va s'engager dans une course sans fin et en grande partie désespérée et épuisante, par lequel il s'agit de ressaisir une forme d'intensité qui va résister à la rationalisation, au monde extensif, au monde découpable partie par partie, quantifiable, mesurable, etc. Mais au moment même où cette intensité est brandie comme une contre-valeur, au moment même où on semble avoir délivré quelque chose de l'extension de la quantification, en fait, on l'a livré à la quantification et à l'extériorité, au nombre, etc. Et donc, évidemment, le problème, c'est que, par exemple, c'est probablement pour cette raison que l'intensité est devenue le maître mot de la société libérale, de la performance, de la mesure même des intensités du corps. C'est devenu le maître mot du sport moderne, etc.
C'est aussi
l'intensité
devenu
la performance.
Le maître mot, en fait, du désir, du bonheur, de la félicité, de la recherche de satisfaction, de plaisir. C'est en fait une modulation, une modalité, peut-être, de ce qu'on entend par bonheur.
Oui, et le paradoxe, du coup, de cette valeur, c'est que c'est au moment où on l'affirme qu'on la perd. Le problème de l'intensité, c'est que à partir du moment où elle est construite et érigée en valeur éthique, elle est perdue. Elle est extrêmement contre-productive, elle produit le contraire de ce qu'elle promettait.
Think back to the first time you heard a song that made the hairs on the back of your neck stand up. Made you want to dance. Or go out and kick somebody's ass. That's what I'm talking about.
So messed up, I want you here. In my room, I want you.
Vous écoutez France Culture, il est 10h33, bienvenue sur les chemins du vendredi où Tristan Garcia, écrivain et philosophe, enseignant à l'université Jean Moulin Lyon 3, vient aujourd'hui nous parler de son essai paru aux éditions Autrement, La vie intense, une obsession moderne.
Les plaisirs de la cruauté sont aujourd'hui très communs parmi les hommes. Et voici l'argument dont ils se servent pour les légitimer. Nous voulons être émus, disent-ils. C'est le but de tout homme qui se livre à la volupté. Et nous voulons l'être par les moyens les plus actifs. En partant de ce point, il ne s'agit pas de savoir si nos procédés plairont ou déplairont à l'objet qui nous sert. Il s'agit seulement d'ébranler la masse de nos nerfs par le choc le plus violent possible. Or, il n'est pas douteux que la douleur affectant bien plus vivement que le plaisir, les chocs résultatifs sur nous de cette sensation produite sur les autres seront essentiellement d'une vibration plus rigoureuse, retentiront plus énergiquement dans nous, mettront dans une circulation plus violente les esprits animaux qui, se déterminant sur les basses régions par le mouvement de rétrogradation qui leur est essentiel alors, embraseront aussitôt les organes de la volupté et les disposeront au plaisir. Les effets du plaisir sont toujours trompeurs dans les femmes. Il est d'ailleurs très difficile qu'un homme laid ou vieux les produise. Y parvient-il ? Ils sont faibles et les chocs beaucoup moins nerveux. Il faut donc préférer la douleur dont les effets ne peuvent tromper et dont les vibrations sont les plus actives. Mais objecte-t-on aux hommes entichés de cette manie, cette douleur afflige le prochain ? Est-il charitable de faire du mal aux autres pour se délecter soi-même ? Les coquins vous répondent à cela qu'accoutumés dans l'acte du plaisir à se compter pour tout et les autres pour rien, ils sont persuadés qu'il est tout simple, d'après les impulsions de la nature, de préférer ce qu'ils sentent à ce qu'ils ne sentent point.
Tristan Garcia, on vient d'entendre, interprété par le comédien Vincent Schmitt, un extrait de La philosophie dans le boudoir de Sade, dans lequel on entend une manière finalement d'évaluer l'intensité, c'est-à-dire de faire une comparaison entre la peine et le plaisir, c'est-à-dire que là on prend plus de plaisir à mesure qu'il y a plus de cruauté dans l'acte qui se déroule sous nos yeux ou qu'on inflige à une autre personne. Et le libertin d'Olmancet, là dans le cas de La philosophie dans le boudoir, est un des hommes intenses dont vous faites le portrait, à côté du romantique et aussi à côté du rocker. Alors on a entendu les Stooges, I Wanna Be Your Dog, et puis on a entendu un court extrait très très court de la série de Martin Scorsese et Mick Jagger qui s'appelle Vinyl. Et on entend tous ces clichés autour du rock, à savoir vivez-le comme c'était la première fois, c'est le rock'n'roll, c'est dur, c'est fort, etc. Et à travers ces portraits, le libertin, le romantique, le rocker, on a une dimension morale de la métaphysique de l'intensité, mais on a aussi en fait des images, c'est-à-dire qu'on retrouve cette idée d'image de l'intensité qui fixe l'intensité et justement perd aussi la force même de l'intensité.
Oui, je crois en effet qu'à partir du moment où l'intensité est devenue un concept, il est apparu que l'intensité ne pouvait jamais être un concept métaphysique abstrait sans être en même temps un idéal moral. C'est-à-dire que le problème était de soutenir au fond même le concept d'intensité pour qu'il ne s'effondre pas. Puisque toute intensité, à partir du moment où elle est reconnue et identifiée, et perd son intensité. Donc la question est de savoir comment il pourrait exister des héros de l'intensité, qui seraient des hommes, des types d'hommes, à partir du XVIIIe siècle, capables de soutenir les intensités de la vie, capables de ne pas laisser les intensités de la vie organique s'effondrer, échoir dans la routine, la répétition,
l'ordinaire. Ce sera un homme Nietzsche, en quelque sorte.
Oui, et avant Nietzsche, même si Nietzsche les connaît, évidemment, je crois que le premier héros, le premier homme intense de la modernité, c'est le libertin, en effet. Il me semble que, très grossièrement, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres figures, mais il y a une sorte de figure, disons, aristocratique au XVIIIe siècle, de l'homme intense, du héros qui soutient les intensités du vivant. Il y a ensuite une deuxième figure qui est cette fois issue plutôt de la bourgeoisie, hein, puisque l'idéal d'intensité va se diffuser dans la société, hein, comme le sang dans les veines. Du corps social. Ce deuxième héros de l'intensité, c'est le romantique au XIXe siècle. Et je crois que leur héritier au XXe siècle, comme figure démocratique de l'homme intense, ça a été en effet, disons, l'adolescent et particulièrement l'adolescent dans le rock. C'est-à-dire celui qui va expérimenter sa nervosité, son intensité intérieure, de telle manière qu'on pourrait presque dire que le rock, ça n'a rien été d'autre au XXe siècle que une électrification de la puberté. C'est-à-dire l'intensité des hormones.
C'est ce que vous dites, des hormones électrifiées.
Oui, qui passent dans une technique qui est l'électrification de la musique, l'amplification de la musique. C'est pour ça que la guitare électrique a évidemment été le fétiche de l'adolescent révolté, frustré, Satisfaction des Stones, etc., qui exprime cette intensité qui cette sorte de galvanisation intérieure qui ne trouve pas d'exutoire et qui va passer dans l'électricité des instruments, dans l'amplification, qui va être amplifiée et qui va se diffuser dans la société par la radio, par un certain nombre de moyens électriques de communication. Et donc il y a une sorte de fil secret de ces héros moraux de l'intensité qui auront été nos ancêtres, qui auront été des expérimentateurs de la vie intense. Le libertin, qui est l'homme de la nervosité, hein, on l'a entendu chez Sade évidemment, qui expérimente sur ses propres nerfs l'effet des idées pour essayer de juger par le choc nerveux que cela lui procure du degré de plaisir qu'une idée, qu'une sensation, qu'une expérience est susceptible de lui donner. Le romantique qui va trouver un écho à son électricité intérieure dans l'électricité de la nature même, donc c'est l'homme d'orage, hein, c'est la figure de l'orage chez Byron, chez Chateaubriand, chez Hugo, et l'écho entre l'électricité dont est chargée la nature et l'électricité dont est chargé le cœur du poète. Et finalement, la figure démocratique, cette espèce de diffusion ensuite dans le corps social de la vie intense, dont le rock a été un des médiums, en diffusant l'intensité de l'âge adolescent et en l'exprimant dans une musique électrique.
Il y a cette idée d'une part effectivement de l'image de l'électricité qui peut se transformer en cliché en fait, en typologie de l'homme intense, mais il y a aussi cette idée que l'intensité en fait frôle toujours la destruction. C'est-à-dire que d'élan vital, d'âme des appareils, de l'homme, de la nature, principe d'unification et de vie, elle finalement l'intensité aussi ne se mesure qu'au fait qu'elle frôle quelque chose de destructeur. Donc ça va être la cruauté chez Sade, ça va être l'orage destructeur chez le romantique, et puis ça va être, et qui va conduire au suicide, et puis ça va être aussi évidemment la prise de drogue dans le rock, le fait toujours de se mettre en danger un peu plus. Il y a quand même ce paradoxe aussi de l'intensité qui se contrefait elle-même, qui ne peut exister que si elle se frôle, elle frôle sa disparition par elle-même.
Bien sûr, et ça va être l'esthétique du sublime à partir du XVIIIe siècle évidemment, par rapport à l'esthétique du beau, qui va être la mise en danger du sujet lui-même, qui le sublime au fond, tel qu'il est défini chez Burke et ensuite il est repris chez Kant, c'est l'idée que le sujet fait l'épreuve de sa finitude et de sa fragilité et qu'il n'a plus au fond comme moyen de ressentir le fait qu'il est vivant. C'est vraiment ça qu'on trouve chez Burke, qu'il n'a plus d'autres moyens esthétiques de ressentir son corps et le fait qu'il est un corps vivant que de frissonner, d'être mis en danger par une esthétique du gouffre, de l'abîme, du silence, de la destruction. Mais du coup, de toute évidence, très vite, on a compris que la destruction, le risque de la destruction en tout cas, n'était pas le contraire de l'intensité, loin de là. Le contraire de l'intensité, c'est l'épuisement. C'est pas l'anéantissement. L'anéantissement peut être esthétisé et peut produire, au contraire,
oui,
une excitation supplémentaire.
Le suicide est une exaltation. C'est une manière de vivre intensément sa mort.
Bien sûr, il y a toujours eu cette exaltation-là. Le contraire de l'intensité, ce qui est un vrai problème, hein, à partir du XVIIIe siècle, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est le contraire de l'intense. Le contraire de l'intensité, ça va être la tiédeur, la médiocrité, ça va être le moyen. Et notamment, je crois qu'un des mots fondamentaux qu'on a opposé à l'intensité, un des termes qui a signifié le contraire de l'intensité à partir du 19e, c'est bourgeois.
Eh bien, on va en entendre un extrait.
Merci. Mathieu, ton assiette, s'il te plaît.
Pas beaucoup.
C'est du phosphore.
Pourquoi?
Si tu bois froid juste après le potage chaud, ça va faire sauter les mailles de tes dents, Emmanuel.
Ah, d'accord.
Oh, comme c'est joliment présenté.
Maurice, il a mis un plat du dimanche.
Et c'est pas dimanche.
Moi, je trouve que c'est plus beau qu'un plat en argent.
Il y a des arêtes.
Maurice, ton assiette. Mais non, je te les ai toutes enlevées.
Merci.
Ah, je ne vous ai pas dit, Marielle, mademoiselle Ebrard a demandé sa retraite anticipée.
Déjà?
Eh oui.
Homme installé, sédentaire, marié à la vie programmée, homme de sécurité, à l'esprit étriqué et formaté, qui aime modérément l'amour, qui connaît juste ce qu'il faut de science, marchand, comptable, le bourgeois est le point d'équilibre de la société. Mais il a été aussi le dernier point de résistance sociale à l'intensité éthique. Et paradoxalement, en lui résistant, il lui permettait de se maintenir. devant l'adversité bourgeoise, l'idée de vivre intensément prenait encore un sens transgressif et électrisant. Plus encore que le prêtre ou le philosophe donneur de leçons, le bourgeois a représenté sans doute le dernier contraire de l'intensité. Alors Tristan Garcia, je viens de lire quelques lignes de votre propre ouvrage « La vie intense » où vous décrivez ce bourgeois qui serait le contraire de l'intensité. Puis on a entendu un extrait du film connu d'Étienne Chatiliez « La vie est un long fleuve tranquille ». Effectivement, la vie du bourgeois est une vie sans relief, pleine de routines, d'informations inintéressantes, qui n'appellent aucune réaction. C'est exactement ce qu'on a entendu dans cet extrait-là. Mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire qu'il y a une intensité de la médiocrité ? C'est-à-dire qu'on peut être intensément un bourgeois.
Oui,
ce qu'on entend avec d'ailleurs l'extrait de La vie est un long fleuve tranquille.
Comme souvent avec ce concept, c'est au moment où il triomphe qu'il perd. Le triomphe de l'intensité est toujours le signe de sa défaite. Au moment où l'intensité s'absolutise, en général, elle s'anéantit. C'est-à-dire au moment où tout est intense, plus rien ne l'est. Et notamment socialement, c'est au moment où il y a eu, pour plein de raisons, une sorte de conquête, y compris de la bourgeoisie puis des classes moyennes, par l'idéal d'intensité, que cet idéal d'intensité est devenu une norme et s'est lui-même désintensifié. Alors, l'intensification, le bourgeois a d'abord marqué le contraire, évidemment, de la vie intense, quelque chose de très classique chez les poètes parnassiens, dans le zutisme, dans la bohème, dans toute une part des avant-gardes. C'était très pratique parce qu'il y avait un contrepoint à la vie intense. On savait au moins ce qu'était la vie intense parce que on voyait que c'était tout ce qui n'était pas la vie bourgeoise. Tout sauf la vie bourgeoise, tout sauf la vie de prud'homme. Et puis il y a eu en même temps une sorte d'intensification de la vie, d'abord de la bourgeoisie puis des classes moyennes, qui est passée notamment en littérature, c'est une histoire qui est bien connue. Flaubert est un bon exemple, par exemple, à la fois de rejet très violent de la bourgeoisie comme contraire de l'idéal même d'intensité, et en même temps d'esthétisation de la vie provinciale, de pénétration progressive par la littérature dans ces zones difficiles d'accès de la vie ordinaire, du quotidien, de la répétition.
Mais c'est toujours pour en rire, il y a toujours une réflexivité de la part de Flaubert.
Oui, mais ça indique quand même un mouvement qui se poursuit, qui est très présent chez Tchekhov, par exemple, où on va trouver que, y compris dans l'ordinaire bourgeois et dans l'ordinaire des classes moyennes, il y a de l'intensité. Il y a de l'intensité aussi dans la médiocrité même, et de ce point de vue, peut-être le dernier grand écrivain français pour ça, c'est Houellebecq, de toute évidence, qui est celui qui investit le plat, la forme plate, la plateforme, d'une forme d'intensité esthétique. C'est celui qui va esthétiser la désintensification sociale de la vie, c'est-à-dire en prenant la société par le milieu, les classes moyennes, l'ennui, la dépression, toutes les figures de la non-intensité, de l'incapacité à sentir encore l'intensité de la vie. Et alors le paradoxe, évidemment, c'est que à mesure que l'intensité est devenue, si vous voulez, a été arrachée à des avant-gardes d'hommes intenses pour qui c'était un idéal, la valeur d'intensité a investi toute la société par le milieu, par la bourgeoisie, par les classes moyennes. Tout le monde s'est mis à réclamer une forme d'intensité, d'expérience intense, d'expérience localement intense. Tout le monde s'est mis à considérer qu'il y avait de l'intensité même dans le moindre geste, etc. Et tout ça a produit une normalisation du concept d'intensité et une sorte de lent épuisement de l'intensité vitale dans la conscience moderne, qui a abouti à un certain nombre de symptômes qui sont aujourd'hui bien connus, bien étudiés, qui sont la dépression, mais aussi toutes les thématiques de l'effondrement intérieur depuis quelques années.
Le burn-out.
Voilà. C'est-à-dire toute l'idée selon laquelle des individus qui sont soumis par la société contemporaine, non plus à un idéal d'intensité, mais à une norme d'intensité, qui est hérité d'une injonction sociale, les individus ne sont pas capables de soutenir tout au long d'une vie l'exigence d'intensité. Il y a un point d'effondrement.
Alors est-ce qu'il faut proposer un modèle concurrent à l'intensité ? C'est-à-dire que à côté du burn-out, de toutes ces pathologies qui explosent et qui sont exploitées, dont on fait des sur lesquelles on propose des discours et même des remèdes, il y a par exemple un éloge de la paresse qui est fait, de la lenteur. Est-ce qu'il faut trouver un refuge ? Si le refuge ce n'est plus la médiocrité et l'homme bourgeois, il faut être du côté de la lenteur. Mais là aussi, on pourrait réactiver le paradoxe de vivre intensément vraiment une vie à l'écart de la société. C'est aussi la difficulté de l'intensité. Vous, à la fin de votre ouvrage, Tristan Garcia, vous proposez, face à l'intensité, l'idée d'une pensée qui serait égale. Un refuge dans la pensée qui ne rendrait pas, qui ne permettrait pas de différencier des choses qui seraient plus ou moins fortes, mais qui, au contraire, rendrait les choses égales. Est-ce que c'est un modèle concurrent, ça, que vous proposez ?
Alors, je pense malheureusement que le modèle concurrent, il existe déjà. Il a toujours existé, il est revenu, donc c'est pas moi qui le propose et il ne me satisfait pas non plus. Je pense qu'il n'est pas satisfaisant d'un point de vue éthique. Le modèle concurrent, il est prémoderne, il existe bien avant l'homme intense de la modernité. Ce sont toutes les promesses sociales, telles que la sagesse ou les promesses de salut portées par la plupart des religions, qui ont toujours été des promesses de désintensification, qui ont toujours été des promesses, par exemple, de paix de l'âme, d'égalisation des humeurs, de neutralisation des passions. Donc il y a, et dans la sagesse et dans le salut, de vieilles promesses sociales qui sont en réserve, hein, qui ont attendu dans la modernité, au fond, que l'homme intense de la modernité s'épuise, à force d'affirmer le fait que le sens de la vie était l'intensification de toutes les fonctions vitales. Il y avait toujours, je crois, plus ou moins caché, ou plus ou moins déjà explicite, d'anciennes promesses qui attendaient que l'individu s'épuise. Et quand c'est une vieille idée, hein, qui existe déjà. Pascal sait très bien que le libertin est son meilleur allié, parce qu'il sait très bien que quand le libertin va avoir épuisé sa vie intense, il tombera dans les bras de l'homme de foi. Hein. C'est-à-dire qu'une fois que toutes les formes d'intensité vitale se seront épuisées d'elles-mêmes, il ne restera plus à l'individu qu'à rechercher de nouveau comme sens de la vie une certaine image qui est produite par la pensée de la non-intensité, de la simplicité, de l'égalité, de l'absoluité, un état autre de son âme, arraché aux passions, au va-et-vient intense des passions du corps organique, etc. Donc le contre-modèle de l'intensité, il a toujours existé, il est là. C'est le retour du religieux, où ce sont les sagesses, y compris la lenteur.
Et en quelques secondes, qu'est-ce qui ne vous satisfait pas dans ce contre-modèle ?
C'est le problème du concept d'intensité, c'est que le piège, c'est que l'intensité, lorsqu'elle est affirmée et suraffirmée, elle finit par être perdue, parce qu'elle est épuisée, mais lorsqu'elle est niée, elle est tout autant perdue. Et toute la question, quand on est attaché à l'idée d'intensité vitale, c'est-à-dire quand on pense que le sens d'une vie profondément, c'est de parvenir à soutenir le sentiment d'être vivant, tant qu'on l'est, c'est de parvenir à renvoyer dos à dos et à échapper d'une part au piège d'une suraffirmation de l'intensité et d'autre part à la négation de l'intensité vitale par le salut pour la sagesse. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Right, let's now get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a f- what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real s*** anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this place. So go ahead, go nuts, go ace. Especially in my pastel on my page. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take six and take this, haters.
Merci beaucoup Tristan Garcia d'être venu nous parler de votre essai paru aux éditions Autrement, La vie intense, une obsession moderne. Et puis j'en profite pour rappeler que vous êtes aussi l'auteur d'un traité des choses, Forme et objet, c'est au PUF, et de plusieurs romans, 7, Faveur le destructeur, tous les deux disponibles chez Gallimard. Et puis La vie intense est la première version, le livre éthique d'une série d'un triptyque que vous faites autour de l'intensité. Et le livre politique, nous, paraîtra chez Grasset en septembre. Et le livre métaphysique paraîtra au PUF l'année prochaine.
God put me in your plans or not. I'm tripping, this drink got me saying a lot, but I know that God put you in front of me.
Et quant à nous, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine des Nouveaux Chemins, une semaine intense, puisque c'est sur Marx que nous nous pencherons, de la misère, de la politique à ses feux de la critique, en passant par la question de l'histoire et de la lutte des classes, ou encore de la magie de la monnaie. Et puis quant à vous, chers auditeurs, et bien pour écouter cette émission et toutes celles de cette semaine sur Spielberg, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins, où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour.